Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Rondro Tshizaza. Bonjour Rondro.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Le thème de notre émission est pour le moment « Comment la Bible nous parle-t-elle de la prière ?» Et nous essayons de cerner dans les textes bibliques des différentes façons de prier en nous approchant au plus près de la définition du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit que la prière est une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Nous parcourons donc la Bible en cherchant des moments où des personnages bibliques ont avec Dieu cette relation vivante et personnelle, et en même temps en essayant d'y trouver de quoi enrichir notre propre manière de prier. Lors de la précédente émission, nous étions arrivés à un moment de l'histoire d'Israël où la prière, justement, en tant que relation avec le Dieu vivant et vrai, avait totalement disparu, remplacée par des cultes idolâtres. En effet, le roi Akab et son épouse Jézabel avaient imposé la religion des Baals, et malheureusement, le peuple d'Israël s'y était conformé. Et c'est alors le moment où Dieu va susciter un grand prophète pour essayer de renouer les liens avec son peuple. Il s'agit du prophète Élie, peut-être le plus puissant de tous les prophètes, qui va ramener la prière dans notre lecture. Nous sommes donc ici au chapitre 17 du premier livre des Rois, et nous voyons apparaître Élie au moment où il sera envoyé par Dieu vers le roi Akab pour le prévenir d'une grande sécheresse qui approche. Mais dans un premier temps, nous voyons Élie qui est envoyé au désert, là où le Seigneur Dieu va ordonner à des corbeaux de venir le nourrir.
Nous lisons en effet dans ce premier livre des Rois au chapitre 17, donc verset 6, « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et ils buvaient au torrent. » Nous pouvons donc penser qu'Élie bénéficiait d'une protection miraculeuse puisqu'il reçoit l'aide d'oiseaux. Pourtant, certaines exégèses de ce texte préfèrent modifier légèrement le mot hébreu pour pouvoir changer « corbeau » en « arabe » et avoir ainsi un récit beaucoup plus réaliste où Élie serait alors simplement nourri par des nomades du désert. Mais c'est peut-être dommage de renoncer ainsi à l'intervention miraculeuse des corbeaux, d'autant que tous les récits de la vie d'Élie viendront ensuite confirmer l'atmosphère surnaturelle qui l'entoure. Et il est certain que le prophète Élie a une relation tout à fait particulière avec le Dieu d'Israël et qu'il aura un destin unique puisqu'il ne mourra pas, mais sera emporté au ciel par un char de feu. Alors nous verrons cela au début du deuxième livre des Rois, mais pour le moment, conservons le corbeau. L'image est très réjouissante, mais cet épisode ne dure pas très longtemps, car la sécheresse augmentant, le torrent va bientôt être à sec, et Dieu va envoyer Élie plus loin. Nous lisons verset 8. La parole du Seigneur lui fut adressée, « Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. »
Eh oui, malheureusement, chez cette veuve, la situation est déjà devenue catastrophique. Alors celle-ci lui dit, « J'ai seulement dans une cruche une poignée de farine et dans une jarre un peu d'huile. Et quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. » Voilà, donc une situation désespérée. Alors pourquoi Dieu envoie-t-il Élie pour être nourri par cette veuve ? N'était-il donc pas au courant du malheur de cette femme ? Évidemment, si, en fait, mais le projet, le vrai projet, c'est de faire pour elle un miracle. Élie lui dit, donc, verset 14, « Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Voilà, le Dieu d'Israël envoie Élie faire un miracle pour une veuve de Sarepta qui ne manquera jamais de nourriture jusqu'au retour de la pluie. Mais c'est une étrangère, et c'est-à-dire qu'elle ne prie pas le même Dieu. Il faut noter que Jésus citera cet épisode plus tard pour expliquer que la grâce de Dieu sera offerte aussi hors d'Israël. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 25, Jésus qui dit « Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon à une veuve de Sarepta. » Donc ce petit événement est important.
Et pourtant, alors qu'Élie est bien installé chez la veuve et profite de son hospitalité, voilà que subitement son fils tombe malade et meurt, ce qui rend la pauvre femme totalement désespérée. Alors, est-ce que c'était aussi voulu par Dieu? Il semble bien que non, parce que la réaction d'Élie est de prier devant le corps de l'enfant. Au verset 20, nous lisons « Il invoqua le Seigneur en disant « Seigneur mon Dieu, veux-tu du mal même à cette veuve chez qui je suis venu en émigré au point que tu fasses mourir son fils ?» Élie ne comprend donc pas la situation et il va forcer la main au Seigneur pour l'obliger à faire un miracle. Il va se coucher sur l'enfant mort en priant, Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. Le Seigneur entendit la voix d'Élie et le souffle de l'enfant revint en lui, il fut vivant. Nous voyons donc ici qu'un prophète n'est pas seulement un homme envoyé pour transmettre la parole de Dieu et agir seulement en médiateur obéissant, mais qu'il est aussi libre de prendre des initiatives et de demander à Dieu d'intervenir. Encore une fois, voici un texte biblique qui nous montre que le Seigneur entend les prières, qu'il peut se laisser fléchir et changer le cours de l'histoire. Ça doit nous encourager à oser demander dans nos prières, même si nous ne sommes pas d'aussi grands prophètes qu'Élie.
Et oui, tout baptisé participe un peu du ministère du Christ, roi, prêtre et prophète, mais chacun à sa mesure. Et nous avons en Élie un modèle d'acte de foi quand il se couche sur l'enfant mort, alors que selon la loi juive, cela le rend impur. Il ose donc transgresser l'interdit tellement sa foi en Dieu est forte. Et c'est ainsi aussi que Dieu va pouvoir agir. Ça nous renvoie aux enseignements de Jésus aussi sur l'intensité de la foi. Nous lisons par exemple en Luc, chapitre 17, verset 6, que si nous avions de la foi gros comme une graine de moutarde, nous pourrions nous aussi faire de nombreux miracles. Ce n'est pas gros une graine de moutarde, c'est tout petit, mais notre foi est sans doute encore trop faible pour être suffisamment agissante dans notre monde, hein, puisqu'il y a encore tellement de souffrances partout. Mais revenons à Élie, qui, après avoir ressuscité le fils de la veuve, va maintenant être envoyé auprès du roi Achab. Nous sommes là au début du chapitre 18. La parole du Seigneur fut adressée à Élie la 3e année. « Va, montre-toi à Achab, je vais donner de la pluie sur la surface du sol. » Voilà. Alors, ainsi, Élie ne sera pas envoyé auprès du roi Achab avant 3 années au moins de sécheresse qui ont donc amené une famine à Samarie, donc cette capitale où habite le roi, capitale d'Israël, qui était, rappelons-le, le royaume formé des 10 tribus du Nord, après le schisme. Nous lisons alors, toujours premier livre des rois, chapitre 18, les versets 17 et 18, « Quand Akab vit Élie, il lui dit, « Est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël ?» Il y répondit, « Ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. » Vous écoutez l'émission La Bible en question, nous parlons de la prière dans la Bible, donc au chapitre 18 du premier livre des rois, quand le prophète Élie vient d'être envoyé par Dieu pour rencontrer le roi Akab et révéler au grand jour les nuisances de sa royauté. C'est en effet un roi dont le texte biblique nous dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur plus que tous ses prédécesseurs. Il faut dire qu'Akab a épousé Jézabel, la célèbre princesse étrangère qui réussit à imposer en Israël le culte de ses dieux, c'est-à-dire Baal et Asherah. Et celle-ci a donné l'ordre aussi de faire exécuter tous les prophètes du Dieu d'Israël. Et il y en avait beaucoup. Rappelons qu'être prophète, c'était un métier à cette époque. Et cela dans toutes les civilisations. Il y avait de véritables écoles de formation au prophétisme, et même des communautés parfois itinérantes de prophètes. Ils étaient donc très nombreux, avec parmi eux certainement une certaine hiérarchie de compétences. C'étaient les médiateurs nécessaires pour consulter les différentes divinités, et on venait leur demander conseil à propos de tout et de rien. Et certains d'entre eux, les prophètes dits « de cour », étaient principalement au service des rois. C'est pourquoi autour de Jézabel, il y avait plusieurs centaines de prophètes qui assuraient la relation avec ses dieux.
Et le prophète Élie fait donc partie des rescapés de l'extermination des prophètes d'Israël, mais il est un prophète d'une autre dimension. La masse des prophètes de métier devait utiliser de nombreuses techniques d'extase et de divination pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Élie, par contre, était un prophète inspiré. Il était en relation directe avec le Dieu d'Israël, qui le mandatait pour des interventions dont l'importance était surtout d'ordre théologique. En effet, nous devons nous souvenir que l'enjeu de l'histoire biblique est toujours de conduire l'humanité vers la connaissance du Dieu unique et véritable. Et donc, à l'époque du roi Akab, il s'agit d'abord d'arriver à détourner le peuple d'Israël de ses pratiques idolâtres. Et dans le premier livre des rois, au chapitre 18, verset 19, voici ce que Élie dit au roi Akab. « Maintenant, fais rassembler près de moi Israël tout entier sur le mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes du Baal et les 400 prophètes d'Asherah, qui mange à la table de Jézabel. » Et à partir de là, nous voyons Élie organiser un véritable match entre lui et les 850 autres prophètes pour démontrer que le seul vrai Dieu est le sien et que les autres dieux n'ont aucune réalité, n'ont aucun pouvoir. On construisit donc deux autels et deux offrandes de sacrifice animal. Et chacun va invoquer son Dieu.
Ce récit, c'est vraiment amusant. Hein, quand on voit alors tous les prophètes de Baal s'égosiller pour invoquer leur Dieu pendant des heures et l'appeler à venir prendre possession des offrandes, mais sans succès. Et d'ailleurs, Élie se moque d'eux ouvertement. Je vous lis le verset 27. « Criez plus fort, c'est un Dieu, il a des préoccupations, il a dû s'absenter. » Où il a du chemin à faire. Peut-être qu'il dort, il faut qu'il se réveille. Donc, vraiment, une moquerie. Et effectivement, les prophètes de l'idole vont crier de plus en plus fort. Et comme dit ensuite le texte, Selon leur coutume, ils se tailladèrent à coups d'épée et de lance jusqu'à être tout ruisselant de sang. Mais il n'y eut ni voix, ni personne qui répondit, ni aucune réaction. Voilà, donc c'est alors qu'Élie va rentrer en scène et préparer son propre rituel d'invocation du Seigneur Dieu d'Israël. Et voici la prière qu'il dit au moment de l'offrande. Chapitre 18, versets 36 et 37. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que je fais toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, que c'est toi qui ramène vers toi le cœur de ton peuple. Voilà, et cette fois, bien sûr, il y aura une réponse, car le feu du Seigneur va descendre et dévorer l'Holocauste.
Et là, on voit que le but d'Élie est atteint, parce que devant cette manifestation éclatante de Dieu, tout le peuple d'Israël sera ébloui. Et nous lisons au verset 39. « À cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre en disant « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Ainsi, grâce à la confrontation organisée par Élie, le lien est renoué entre Israël et son Seigneur. Le prophète pourrait donc simplement se réjouir et rendre grâce, mais ça ne lui semblera pas suffisant. Et nous lisons au verset 40, Élie leur dit « Saisissez les prophètes du Baal, que pas un ne s'échappe. » Et on les saisit. Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon et il les égorgea. Alors, c'est déjà difficile à lire, mais c'est aussi difficile à comprendre. Peut-on imaginer le prophète Élie égorgeant de ses propres mains 850 prophètes ennemis? Sinon, quel sens donner à un tel geste dans un récit à but théologique? Alors, Élie est-il vraiment obligé de se livrer à un tel carnage pour éradiquer la religion concurrente? Bien sûr, on peut comprendre qu'il souhaite que le Dieu d'Israël puisse retrouver toute sa place dans le cœur de son peuple, mais est-ce que cela doit absolument passer par l'extermination totale des faux prophètes? Alors, ça ressemble plutôt à la folie des guerres de religion ou à du terrorisme à la manière des islamistes, et nous sommes très loin de l'enseignement de Jésus.
Oui, c'est pas vraiment pas facile de justifier une telle cruauté. On peut espérer, en fait, que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, et qu'il s'agit plutôt d'une manière symbolique de présenter la victoire du vrai Dieu d'Israël. Mais nous avons pourtant déjà vu, avec l'histoire du prophète Samuel, que les mœurs de l'époque exigeaient parfois la mise à mort totale des ennemis, et que le prophète devait parfois aussi jouer le rôle du bourreau. On pourrait dire qu'ici, avec Élie, c'est plutôt l'énormité du carnage qui est ahurissante. 850 personnes qui vont être égorgées par un seul homme. C'est peu plausible. En tout cas, ça démontrerait la puissance exceptionnelle du prophète Élie. Mais encore une fois, il s'agit peut-être quand même d'une fiction destiné à frapper l'imagination du lecteur pour montrer plutôt l'importance de l'enjeu théologique. Mais Élie doit ensuite aller se présenter au roi Akab pour annoncer entre autres le retour de la pluie et il va monter au sommet d'abord du Carmel pour aller prier Dieu. Et le verset 42 nous dit « Il se prosternait à terre, le visage entre les genoux ». Alors, ce n'est pas là une attitude de vainqueur sanguinaire, hein, c'est plutôt un geste de soumission totale envers le Dieu d'Israël. Et après quoi, on lit que, comme la pluie arrivait, Élie courut devant le char du roi Akab jusqu'à Israël, c'est-à-dire 27 kilomètres en courant devant des chevaux. Donc décidément, Élie est quelqu'un d'exceptionnel. Peut-être c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en lui. Vous écoutez l'émission La Bible en question à propos de la prière dans la Bible et nous venons de voir donc au chapitre 18 du premier livre des rois le massacre des prophètes du dieu Baal, apparemment de la main même du prophète Élie. Nous sommes maintenant au début du chapitre 19 et bien évidemment quand la nouvelle arrive aux oreilles de la reine Jézabel, celle-ci va se mettre dans une terrible colère et décider de faire tuer Élie. C'est pourquoi celui-ci, pour essayer de sauver sa vie, va fuir au désert. Et nous lisons au verset 4. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Voilà, ainsi, complètement épuisé, Élie s'arrête de fuir et préfère s'abandonner à la mort avec cette quand même très belle prière. « Seigneur, prends ma vie. » Je trouve que nous pouvons tous rencontrer un jour une telle situation d'épuisement et de découragement dans nos vies. Et à ce moment-là, nous souvenir d'Élie en nous tournant vers Dieu avec cette même prière. Alors peut-être aurons-nous, comme Élie, la chance d'être réconfortés par un ange. La suite du texte dit « Un ange du Seigneur le toucha et dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et vit une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et il mangea.
Et l'ange revient même une deuxième fois. Nous lisons versets 7 et 8. « L'ange du Seigneur revint ». Le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à l'Horeb. Il arriva là à la caverne et y passa la nuit. Nous arrivons ici à l'épisode le plus célèbre de la vie du prophète Élie, c'est-à-dire sa fameuse rencontre avec Dieu à l'Horeb. Comme Moïse, mais pas de la même façon. Alors d'abord au verset 9, nous lisons « La parole du Seigneur lui fut adressée, pourquoi es-tu ici, Élie ?» Donc d'abord, une question est posée à Élie. Comme plus tard, Jésus aussi, avant de faire un miracle, posera d'abord une question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élie est donc invité ici à exposer devant Dieu comment il comprend sa situation. Et nous lisons au verset 10 et 11 ce qu'il répond. « Je suis passionné par le Seigneur Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. Et le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Et la suite est bien connue. Il y eut un vent de tempête, puis un tremblement de terre, puis un feu, mais le Seigneur n'y était pas.
Et non, Dieu ne se trouve pas dans ces manifestations extrêmes, mais bien ensuite dans, ce que dit le texte, le bruissement d'un souffle ténu, ou plutôt, comme dit la traduction liturgique, dans le murmure d'une brise légère. En fait, l'expression hébraïque est difficile à traduire, mais le sens est quand même assez clair. La présence de Dieu se laisse percevoir seulement dans une vibration d'une délicate subtilité, dans un quasi-silence. Alors cette théophanie discrète montre que le Seigneur veut se rendre accessible à l'intériorité de la prière d'Élie. Il ne veut pas troubler son cœur, mais curieusement, c'est à nouveau la même question qui lui est posée. Pourquoi es-tu ici, Élie ? C'est comme pour avoir une confirmation de ses dispositions intérieures. Et bien sûr, Élie va faire la même réponse. Ensuite seulement, nous dit le verset 15, le Seigneur lui dit « Va, reprends ton chemin en direction du désert de Damas. » Donc plus au nord. Élie est donc envoyé pour là oindre deux rois, l'un pour les Araméens, l'autre pour Israël, mais surtout pour oindre un nouveau prophète à sa place, c'est-à-dire son futur successeur, Élisée. Mais pour le moment, Élisée va simplement suivre Élie et se mettre à son service. Son apprentissage de prophète se fera en s'imprégnant progressivement de la fonction, en attendant de recevoir lui-même cette charge. La vie d'Élie se continue encore le temps d'une guerre entre Israël et les Araméens, dans laquelle pourtant le texte ne nous dit rien, il ne semble pas intervenir.
Pourtant, un prophète sera mêlé à cet épisode raconté tout au long du chapitre 20, mais il reste un prophète anonyme. Et nous ne retrouvons Élie qu'un chapitre plus tard, donc au chapitre 21. Et là, nous voyons encore une mauvaise action du roi Achab et de Jézabel. Il s'agit de l'épisode de la vigne de Naboth. Alors, Naboth possédait une vigne juste à côté du palais du roi. Et le roi lui demanda de la lui céder parce qu'il désirait agrandir son terrain. Mais Naboth refusa. Alors, Jézabel va organiser un procès avec de faux témoins pour accuser Naboth de blasphème, ce qui lui valut d'être mis à mort par lapidation. Et le roi Achab a pu prendre possession de la terre qu'il convoitait. Mais Dieu va immédiatement lui envoyer le prophète Élie, lui dire « Ainsi parle le Seigneur, après avoir commis un meurtre, prétends-tu aussi devenir propriétaire ?» Tu lui diras donc « Ainsi parle le Seigneur, à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Voici de nouveau le prophète dans son rôle de messager pour annoncer le châtiment de mauvaises actions. Et il ajoutera aussi au verset 23, « Les chiens mangeront Jézabel. » Et de même pour tous les membres de la maison d'Achab. Mais en entendant cela, Achab va faire pénitence et son châtiment sera retardé. Donc, même pour un si méchant homme, on voit que Dieu peut se laisser toucher et accorder sa miséricorde.
Oui, mais pourtant, hein, après un nouveau combat avec les Araméens, et Achab sera quand même tué. Pourtant, il s'était déguisé pour ne pas être reconnu, mais cela ne lui servit à rien. Il fut atteint par une flèche, nous dit le texte, une flèche envoyée au hasard. Et comme le prophète Élie l'avait prédit, des chiens léchèrent son sang. Nous sommes là à la fin du premier livre des rois. Nous aborderons la suite en commençant la prochaine fois le deuxième livre des rois. À présent, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous.